Un bébé, c'est mignon tout plein et peu de scènes sont aussi adorables qu'une petite fille avec ses couettes qui joue à la maman en poussant un petit landau. Mais si devenue adolescente, elle passe encore tout son temps avec des poupées, il y a un gros problème quelque part parce qu'elle est restée petite enfant. Grandir et changer font partie de la vie, autant dans le monde physique que spirituel. Comme la graine croît jusqu'à atteindre sa pleine maturité et que l'enfant grandit jusqu'à l'âge adulte, ainsi le jeune dans la foi doit évoluer et devenir mature. Malheureusement, tout comme la croissance physique peut être freinée ou même arrêtée par différentes causes, il en est de même dans le domaine spirituel. Les croyants peuvent eux aussi rester à un stade infantile au lieu de devenir adulte. Pour cette raison, l'apôtre Pierre exhorte ses lecteurs en disant « Progressez sans cesse dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. » Il est indispensable à un croyant de grandir dans la foi, bien que ce ne soit pas ce qui détermine sa destinée éternelle. En effet, cette question est réglée une fois pour toutes, quand le pécheur place sa confiance dans l'œuvre parfaite accomplie par Jésus sur la croix, car alors la justice parfaite du Christ lui est imputée. Il faut donc bien faire la distinction entre le salut et la maturité spirituelle. Au moment où une personne place sa foi en Jésus, la valeur de son sacrifice lui est appliquée et il devient alors enfant de Dieu pour l'éternité. Deuxièmement, ce n'est pas ma croissance spirituelle qui va changer l'amour que Dieu me porte. Le Seigneur aime pareillement et parfaitement tous les siens, car cet amour ne dépend pas de nous, mais de lui. Troisièmement, on ne mesure pas la croissance spirituelle en fonction du calendrier, car ce n'est pas l'ancienneté qui détermine le niveau de maturité. Quatrièmement, si amasser des connaissances est nécessaire, ça ne suffit pas, car encore faut-il les mettre en pratique journellement dans la communion avec Dieu. Cinquièmement, il ne faut pas confondre activisme et maturité. On peut être aussi affairé que des termites sans rien accomplir pour Dieu. Au jour du jugement, tout partira en fumée. À la lumière de tous les avertissements que l'apôtre Jean a donnés jusqu'à présent à ses lecteurs, ces derniers pouvaient penser qu'ils n'étaient pas satisfaits de leur état spirituel. Mais ce n'est pas le cas. Au contraire, il les chérit et veut les encourager à progresser encore davantage dans leur croissance spirituelle. Jean sait très bien que ses destinataires ne sont pas tous au même niveau de maturité spirituelle et il va en tenir compte en s'adressant à trois groupes de croyants, les enfants, les jeunes adultes et les pères. Chacune de ces catégories de maturité spirituelle possède certaines caractéristiques qui lui est propre. Ainsi, l'expérience se rencontre plutôt chez les pères, ceux qui sont plus anciens dans la foi, tandis que la force est un attribut des jeunes. Cependant, toutes les qualités que mentionne Jean devraient se retrouver à un degré plus ou moins important en chaque croyant. Il faut donc présumer que l'apôtre s'adresse à tous ses lecteurs, même quand il parle à un groupe spécifique. Par exemple, on peut considérer que tous les croyants sont des enfants, puisqu'ils doivent continuellement dépendre de leur Père céleste. Et Jésus a dit à ses disciples, « Si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Tous les croyants sont également des jeunes, puisqu'ils doivent pouvoir se battre contre les puissances des ténèbres et défendre leur foi. Quand l'apôtre Paul écrit à son disciple Timothée, il l'exhorte à combattre le bon combat de la foi et il compare le disciple à un soldat, un athlète et un cultivateur. Enfin, Tous les croyants doivent aussi avoir les caractéristiques d'un père par sa connaissance de Dieu et son expérience de la vie chrétienne. Je continue maintenant à lire dans le second chapitre de 1 Jean. « Je vous écris, enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, jeunes enfants, parce que vous avez connu le père. Je vous ai écrit, père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. » Versets 12 à 14. Ce passage est un peu déroutant pour plusieurs raisons. Premièrement, Jean s'adresse deux fois de suite à chaque niveau de maturité spirituelle. Deuxièmement, dans sa première adresse, il utilise le présent « j'écris » alors que dans la seconde, il emploie un passé indéfini qui est traduit par « j'ai écrit ». Troisièmement, si le mot grec pour « père » et « jeunes gens » est toujours le même, celui pour « enfant » est différent, ce qui veut dire que Jean ne parle pas à la même catégorie de personnes. Au père, Jean écrit exactement la même chose. Il n'y a que le temps du verbe « écrire » qui change. Aux jeunes gens, l'apôtre dit tout d'abord qu'ils ont vaincu le malin, et la seconde fois, il change le temps du verbe et ajoute « parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous ». Après cette vue d'ensemble, voyons ce passage en détail. « Je vous écris, enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. » Verset 12. Jean appelle tous ses lecteurs « enfants », un terme d'affection, mais qui est également justifié du fait que l'apôtre doit avoir dans les 90 ans. Le mot pour « enfants » signifie « ceux qui sont nés dans une famille », une référence à la descendance indépendamment de l'âge. Ce mot est fréquent dans le Nouveau Testament pour désigner les croyants en tant qu'enfants de Dieu. Jean s'adresse ici à tous ceux qui font donc partie de la famille de Dieu, quel que soit leur degré de maturité spirituelle. Leur première caractéristique est d'avoir reçu le pardon de leurs péchés. Dieu pardonne parce qu'en manifestant ainsi sa grâce, il glorifie son nom et celui de Jésus qui est justement venu mourir pour faire l'expiation des péchés. En théologie, on apprend que le Christ est le Rédempteur, qu'il a fait la propitiation des péchés et qu'il est l'agent de notre réconciliation avec Dieu. Tout ça est fort juste, mais un peu abstrait. Ce qui m'importe et que je comprends vraiment bien parce que c'est du concret, est que Dieu a pardonné mes péchés au point où il les a oubliés. Il a comme un trou de mémoire et ne se souvient plus de mes fautes. Cet aspect du salut est essentiel et peut être compris par n'importe qui. Voilà pourquoi Jean écrit tout en haut du tableau « Je vous écris parce que vos péchés vous sont pardonnés ». Je continue le texte avec la seconde mention du mot « enfant ». Je vous ai écrit, jeunes enfants, parce que vous avez connu le Père. Verset 13. Alors que précédemment, le mot pour enfant a un sens générique, parce que l'apôtre s'adresse à tous les croyants, ici le mot pour enfant se rapporte à de jeunes enfants immatures qui sont encore éduqués par leurs parents et qui ont besoin d'aide et de conseils. Jean parle de personnes sincères, mais qui ont encore un long chemin à faire avant d'atteindre la maturité spirituelle. Ils connaissent leur Père céleste de la même manière qu'un très jeune enfant reconnaît ses parents et s'attend à eux pour satisfaire tous ses besoins. Ces enfants sont contrôlés par leurs sentiments, leurs émotions, et incapable de faire la différence entre ce qui risque de leur nuire et ce qui leur serait bénéfique. Par contre, ils sont enthousiastes, savourent certains passages des Écritures et aiment le Seigneur qu'ils veulent faire connaître partout autour d'eux. Avec le temps, ils doivent croître et passer du stade de l'enfance à celui de jeunes gens. Concernant ces derniers, Jean dit « Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. » Versets 13 et 14. Au fur et à mesure qu'un enfant de Dieu grandit dans sa foi, il se fie de moins en moins à ses émotions et développe un amour toujours plus profond pour la parole de Dieu qu'il étudie avec assiduité. Les jeunes gens comprennent les grandes doctrines des Écritures qu'ils désirent proclamer et défendre. Leur attachement à la vérité les rend forts dans leurs convictions, ce qui fait qu'ils savent reconnaître les mensonges du monde et qu'il n'est donc plus possible de les tromper. Il faut garder à l'esprit que, contrairement à certaines idées reçues, Satan et ses cohortes ne perdent pas leur temps à tenter individuellement les êtres humains. Ce serait tout à fait inutile parce que nous n'avons pas besoin d'eux pour transgresser les lois de Dieu. Comme le mal est déjà en nous, profondément enraciné, péché est un mouvement naturel qui vient tout seul, sans effort. Les puissances des ténèbres se consacrent plutôt à tromper le monde, en semant le mensonge tous azimuts, faisant croire aux hommes qu'avec la science et de bonnes résolutions, ils résoudront tous leurs problèmes. Ils fréquentent donc les chancelleries de notre monde, les couloirs du pouvoir et les grandes instances politiques, religieuses et scientifiques. Concernant les pères, Jean dit « Je vous écris, père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. » Le mot pour connaître se rapporte à une connaissance intime. Les pères ont expérimenté Dieu en tant que seule source de vérité. L'apôtre Paul écrit qu'il veut connaître le Christ, c'est-à-dire expérimenter la puissance de sa résurrection et avoir part à ses souffrances en devenant semblable à lui jusque dans sa mort. Or, on ne peut apprendre à connaître véritablement une personne qu'en passant du temps avec elle. Quand on se marie, on croit savoir avec qui, mais en réalité, il faut attendre les noces d'or ou au moins d'argent pour vraiment connaître son conjoint. Les pères sont ceux qui ont passé du temps à méditer les attributs de Dieu, ce qui fait qu'ils le connaissent, l'apprécient et peuvent l'adorer en esprit et en vérité. Les pères possèdent une assise solide. Ils sont sûrs de leur foi et leur confiance en Dieu leur permet de faire face à n'importe quel événement, même le plus terrible, comme Job, qui après avoir tout perdu, a pu dire « Je suis sorti nu du ventre de ma mère et j'y retournerai nu. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que l'Éternel soit loué. » Plus tard, après avoir reconnu qu'il avait une perception très incomplète de Dieu, Job a aussi dit « Je me condamne, je regrette mon attitude en m'humiliant sur la poussière et sur la cendre. » Le seul moyen que nous possédons de faire des progrès dans la vie chrétienne est de mettre en pratique la parole de Dieu, car c'est elle qui a le pouvoir de me transformer en me rendant de plus en plus semblable à mon Maître Jésus-Christ. Il me faut ajouter que la croissance ne concerne pas seulement les croyants qui sont au stade enfant ou jeune gens, mais aussi père. Je continue le texte de 1 Jean. « N'aimez pas le monde ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. » Verset 15. En parlant du monde, Jean ne fait évidemment pas référence à la création physique avec son ciel étoilé majestueux, ses montagnes magnifiques, ses fleurs multicolores et la diversité quasi infinie de sa faune. Le roi David a écrit « Tous les cieux proclament combien Dieu est glorieux. L'étendue céleste publie l'œuvre de ses mains. Un jour en informe un autre, une nuit à l'autre nuit en transmet la connaissance. » Leur voix parvient jusqu'aux confins de la terre et leurs accents dans tout l'univers. Dieu a dressé dans le ciel pour le soleil une tente, comme un jeune époux qui sort joyeux de sa chambre, Comme un champion qui s'avance, ravi de prendre la course, surgit le soleil. Tout à l'Orient, il se lève et son parcours se prolonge jusqu'au seuil de l'horizon. Il n'est rien qui se dérobe à l'ardeur de ses rayons. Le monde dont parle Jean n'est pas non plus le genre humain, puisque dans son évangile, il écrit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Le monde dont parle Jean décrit le système diabolique tentaculaire qui a envahi et noyauté tous les aspects de la vie humaine. Parce que Satan en est le prince, il est hostile à Dieu et s'oppose sans cesse à sa volonté. L'apôtre Paul savait que les croyants étaient engagés dans une lutte sans merci contre les puissances spirituelles cachées de ce monde. Il écrit « Sans doute, nous sommes des hommes et nous vivons comme tels, mais nous ne menons pas notre combat d'une manière purement humaine, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas simplement humaines, elles tiennent leur puissance de Dieu qui les rend capables de renverser des forteresses. Oui, nous renversons les faux raisonnements, ainsi que tout ce qui se dresse prétentieusement contre la connaissance de Dieu. Les faux raisonnements et tout ce qui se dresse contre Dieu représentent l'éventail d'idéologies et de croyances qui vont du système primitif de l'animisme et du vaudou aux grandes religions mondiales en passant par toutes les sectes imaginables. Mais ce sont aussi les dogmes tordus promus au rang de vérités incontestables, les théories philosophiques, politiques, économiques et scientifiques qui proposent une perspective du monde opposée à celle des Écritures. Cependant, ce qui rend ce monde particulièrement dangereux est qu'il exerce une influence séduisante en multipliant les tentations auxquelles le croyant est sans cesse confronté et doit résister. Par exemple, Jésus a dit « Nul ne peut être en même temps au service de deux maîtres, car ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera dévoué au premier et méprisera le second. » Vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et l'argent. Et l'apôtre Jacques écrit « Peuple adultère que vous êtes, ne savez-vous pas qu'aimer le monde, c'est haïr Dieu? Si donc quelqu'un veut être l'ami du monde, il se fait l'ennemi de Dieu. » L'Écriture oppose régulièrement le monde présent à celui à venir parce qu'aimer ce monde en tant que système est incompatible avec l'amour pour Dieu. L'apôtre Paul a eu un ministère époustouflant et une vie particulièrement difficile, mais ce qui l'a le plus troublé est d'avoir été abandonné par certains de ses collaborateurs. Quand il écrit sa dernière épître, il dit à son jeune disciple Timothée, « Comme tu le sais, tous ceux de la province d'Asie m'ont abandonné. » Entre autres, Phygèle et Hermogène. Démas m'a abandonné. Il a aimé le monde présent et il est parti pour Thessalonique. Cette grande ville cosmopolite était située sur la route commerciale qui traversait l'Asie mineure d'est en ouest, c'est-à-dire la Turquie actuelle, et offrait multiples possibilités de participer à des religions à mystère, de s'enrichir et de mener une vie de bâton de chaise. Hormis ce témoignage particulièrement négatif que leur rend les Écritures, on ne sait rien d'autre de ces hommes. Ont-ils retourné leur veste à cause des soucis du monde ou l'attrait des richesses? En tout cas, il semble bien correspondre à la parabole où il est question d'une terre pierreuse et d'un sol plein d'épines dans lesquelles la semence est tombée, a germé, puis a séché. Tandis que Paul considérait que mourir en martyr était un risque acceptable, ces hommes ont choisi ce que ce monde pouvait leur offrir plutôt que l'opprobre du Christ. Paul n'avait pas le cœur partagé parce qu'il s'était véritablement défait de tous les liens qui dans ce monde peuvent nous emprisonner. Il écrit « En ce qui me concerne, je ne veux à aucun prix placer ma fierté ailleurs que dans la mort de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Par elle, en effet, le monde du péché a été crucifié pour moi, de même que moi je l'ai été pour ce monde. En d'autres mots, l'apôtre dit qu'entre lui et le système corrompu de ce monde, la croix fait barrière. Jean nous rappelle qu'il faut choisir. Vais-je opter pour l'amour du monde ou l'amour du Père? Quelqu'un de judicieux a dit que l'épître de Paul aux Romains explique comment on sort de la maison de servitude, celle aux Éphésiens comment on entre dans la salle de banquet, l'épître aux Hébreux comment on s'approche du trône de la grâce et la première lettre de Jean comment on entre dans la présence intime du Père.